Attention, parce qu'il est temps pour vous d'affronter le mur!
3, 2, 1...
Oh, ma voyeur sur le derrière! Bang! C'est ça!
Live d'une des villes les plus détraquées au monde, JF...
Un enfant qui arrive avec une différence.
Et Camille...
Miroir, miroir, ouais.
Le Spacecast.
Où est-ce qu'on est?
Bonjour tout le monde!
Gardez-le, votre anglais! De chez nous! Parce qu'on est fucking champions!
Boum! Tabarouette qu'on est dans le match!
Let's go!
À Mama Oulé!
Le Spacecast qui vous accompagne jusqu'à 22h.
Que cette trame me fait du bien.
J'ai envie de me battre. C'est une toune qui me donne le goût de défoncer des gyps.
Violent Lou, là, il sait pas, mais ça lui picote à des places.
Ah oui, absolument. Violent Lou, il se dit, y'a-tu du sable quelque part que je me roule avec un homme?
Oui, pour de l'herbe à puce.
Absolument, il sera là d'ailleurs dans la S'exploratrice tantôt. Le numéro pour nous joindre, c'est le 418-670-9098. Quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Comme tantôt, là, on a eu l'air super brillant avec la circulation. En deux temps, trois mouvements, tout était réglé. On a tout callé les shots. Comme si on avait déjà fait ça, Camille.
Comme si on était compétents. C'est parfait.
Yes.
Je vais regarder d'ailleurs, est-ce que c'est terminé cette histoire de ralentissement sur la 20 direction est? Hey, mon Dieu, là, je suis en caméra 3D. Pas 3D, mais genre satellite, là. Colin. C'est réglé, c'est beau, tout est beau.
Tout est beau, ok. Ouais. Moi,
c'est
n'importe quelle.
Ouais, c'est ça,
n'importe quelle raison de garder la trame. Ah, oh, bref. Hey, vous l'avez entendu ricaner au loin. Je suis tellement content de le retrouver pour. Là, je vais fermer la trame, là, c'est ridicule.
Notre affaire, c'est ridicule. Ouais.
Christophe Coré, notre spécialiste en comportement canin qui est en studio. Salut, man.
Hey, salut à tous les deux. Comment ça va,
Pierre? Ça va.
Yeah.
Ça va, toi aussi?
Content. Oui, vraiment content de vous retrouver ce soir. Sincèrement, passez un bel été, mais j'avais hâte de vous retrouver.
T'as de la visite avec toi?
Aye.
Qui est-ce?
Je suis accompagné d'une magnifique jeune demoiselle de 16 ans qui vient de France et qui n'est autre que la fille de mon frère, à savoir ma nièce, Maëlys Coré.
Salut, Maëlys.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Excellent. Tu viens de où?
De la Bretagne.
Qu'est-ce que t'aimes? Si t'avais à me vanter la Bretagne, là, j'y suis jamais allé.
Moi non plus.
Je pense pas non plus y aller, en toute franchise, mais c'est à toi de virer... En fait, c'est à toi de sauver le tourisme de la Bretagne ce soir. Qu'est-ce que tu me dis pour que j'y aille?
Y a la plage.
Ah oui?
Oui.
Est-ce que l'eau est belle?
Oui, elle est chaude. Turquoise.
Ah oui?
Pour vrai?
En Bretagne?
Oui.
Ah ouais?
Je savais pas.
J'aurais pas cru ça.
Oui.
OK.
Du côté de Fouesnant, et vous allez trouver de l'eau turquoise là-bas.
OK. C'est quoi les spécialités alimentaires qu'il y a là-bas? C'est quoi les meilleurs mets?
Ben, les moules.
Ah ouais?
Tout ce qui est fruits de mer.
OK. OK. Puis sinon, c'est quoi l'activité numéro un à faire en Bretagne autre que d'aller à la plage?
Mettons sorti.
Je suis mieux d'emmener mon costume de bain. Hein?
Bon, la plupart, c'est le surf.
Ah ouais?
Ah ouais, OK.
Il y a des surfer boys?
Oui.
Ah ouais?
Je viens de comprendre le look de Christophe, là, tout d'un coup. Là.
Ben oui.
Surfer boy.
Ben oui, c'est ça.
Oui, il y a une région qui est vraiment réputée pour le surf, qui s'appelle La Torche, qui est vraiment un endroit extraordinaire avec de nombreuses belles grosses vagues où se passent d'ailleurs beaucoup de championnats, même internationaux, qui se passent là-bas. On est sur la façade atlantique finalement, donc on est face à l'océan.
Ah,
on est complètement, exactement, donc on est face à vous. Et comme le disait Maëlys, on se retrouve effectivement dans des places comme à Fouesnant ou à Concarneau, à d'autres places encore, où effectivement on a de l'eau quasiment turquoise. Et on appelle même la partie nord de la Bretagne la côte émeraude.
OK. Ah, ouais.
Ouais.
Mais est-ce qu'à 16 ans, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis comment est fait le système scolaire en France? Parce qu'au Québec, à 16 ans, t'es quoi? T'es en secondaire
4? Secondaire 5. 16, oui.
Fait que nous, à 16 ans ici, là, si tu veux une destinée potable, idéalement, il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire dans la vie, sinon t'es foutu.
En Bretagne, c'est pareil.
Ah oui?
Ah oui? Bon, OK.
Pareil, moi personnellement, je sais ce que je veux faire plus tard.
C'est quoi?
J'aimerais être avocate.
Oh wow, cool!
Aller dans le droit et être plus tard avoir mon cabinet d'avocat.
Ok, cool!
Et le niveau système scolaire là-bas, c'est pas vraiment pareil.
Non?
Nous, on reprend un peu plus tard, par exemple, la rentrée.
Ok. Là, actuellement, tu es en vacances d'été, puis tu recommences quand?
Je reprends le 4 septembre.
OK.
Quand même,
OK. Un petit peu plus tard, tu vois, moi, mes filles, c'est le 28 août. Fait que ça s'en vient. Quand même assez proche. OK. All right. Hey, on enchaîne maintenant sur les sujets, en fait, nos sujets habituels sur le comportement canin. Si vous avez des questions pour Chris, vous vous gênez pas, 418-670-9098. Peu importe, là, vous avez une situation qui est bien, bien personnelle à vous. C'est peut-être votre chance d'avoir une piste de réponse à travers,
ben oui.
À travers tout ça. On se lance avec une histoire que je sais que ça te tient à cœur. Premièrement, l'adoption responsable, mais également toute la maltraitance avec les animaux. On a parlé avec l'expédition, c'est quoi, Milou, il me semble.
Absolument.
Tous les traitements.
À l'île d'Orléans, ouais.
Exact. Fait que, tu sais, l'idée d'emmener volontairement un chien vers la mort, je comprends que d'emblée, ça vient te chercher. Avec raison, tu es un passionné des animaux. Mais il y a des fois des moments où on n'a peut-être pas le choix. Et là, peut venir, avec notre magnifique air qui est 2024, les jugements sur les réseaux sociaux. « Ah, check l'écœurant, hein, toi, qui a piqué son chien pour telle raison. » Puis, il y a une situation bien à toi qui t'est arrivée, puis tu voulais réagir à ça.
Merci, Jeff. Merci, Camille, de me permettre de la partager. Je ne vais pas prendre énormément de temps, mais je trouve effectivement important de reprendre le point là-dessus, parce que c'est essentiel de rappeler que si on veut éviter des abandons qui sont tristes, c'est des adoptions responsables que ça nous prend à la base. Et malheureusement, on peut après en vouloir au refuge de prendre des décisions parfois drastiques par rapport à la situation. Malheureusement, eux ne sont que la conséquence d'un fait de société. Si tout le monde avait adopté de manière responsable, si les éleveurs, tous les éleveurs, je ne parle pas des éleveurs, mais de tous les éleveurs qui existent sur la place, y compris les non-éthiques, étaient bien plus responsables dans leur façon de faire, on n'aurait pas besoin d'avoir de SPA, on n'aurait pas besoin d'avoir de société ni d'organisme qui soit là pour gérer nos problématiques d'irresponsabilité.
Idem pour les enfants, protection de la jeunesse.
Clairement. Exactement. Qu'on parle de DPJ, qu'on parle de SPA ou autre, c'est marrant parce que j'en ai fait ce parallèle-là à un moment donné dans un des discours. Alors oui, c'est vrai qu'il peut arriver malheureusement parfois des euthanasies, parce qu'on parle d'euthanasie nécessairement quand on fait une mise à mort volontaire.
Je trouve qu'en anglais, ils ont une belle façon de dire « put him to sleep ». Je trouve que c'est plus doux, plus délicat que euthanasie. Ça fait Troisième Reich, je trouve.
Ouais, ça fait ça. Mais puis c'est ça, en même temps, on veut pas. Bah, là, oui. Puis, surtout quand tu le vois en masse, quand ça l'est fait parfois. Là. Puis malheureusement, oui, il arrive ma foi, parfois des euthanasies qui sont pas justifiées. On appelle ça des euthanasies de confort, c'est-à-dire la personne ne sait juste pas quoi faire avec son chien, pas envie de se prendre la tête, on le pique, terminé, fini. Malheureusement, moi, c'est pas dans ce genre de situation-là que je me retrouve. Quand on se retrouve à devoir prendre cette décision-là, c'est que malheureusement, on a déjà essayé plusieurs solutions, y compris de les accueillir chez nous. Moi, c'est ce qui s'est passé avec le bel Alphonse. Alphonse est un pitbull qui avait passé en un sens entre les mains dans un autre refuge que celui de la SPA de Lévis à un moment donné. Puis ce refuge-là avait déjà diagnostiqué une potentielle euthanasie parce qu'ils avaient identifié qu'il y avait quand même des problématiques de relation avec d'autres chiens. La SPA de Lévis, qui est vraiment un refuge éthique et qui se dit on veut tenter, pourquoi pas, de trouver une autre alternative pour ce chien-là, a décidé de le reprendre, l'a gardé pendant près de 150 jours quand même. Il était disponible pendant 150 jours. 150 jours, on parle de 5 mois quand même. Hein. 150 jours, c'est 5 mois pendant lesquels il était disponible à l'adoption. Personne n'a levé la main. Puis moi, à un moment donné, j'ai proposé de concert avec la SPA de Lévis, de leur dire on va le sortir de là, on va voir, on va l'évaluer. Il est-tu vraiment si mauvais que ça avec les autres chiens? C'est pas possible, moi, c'est clair. Et effectivement, Alphonse, quand il est arrivé dans mon oasis, ça s'est super bien passé les premiers jours.
Okay.
On va parler vraiment de ce qu'on appelle l'inhibition par rapport à la curiosité du chien. Le chien est un peu timide et puis inhibe un peu. C'est un peu comme nous quand on arrive dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas. Là,
en début de relation, tout est beau, on fait attention, on se monte de nouveaux jours.
Absolument, tu commences une nouvelle job, tu ne sais pas trop qui sont tes amis, tes ennemis, tu fais gaffe à tout ça, tu regardes, tu ne montres pas ton vrai visage au début. Puis malheureusement, Alphonse, très rapidement, s'est retrouvé de manière très, très automatique à justement attaquer les chiens de manière complètement injustifiée. Là, on a dû faire une évaluation d'agressivité, agressivité qu'on a qualifiée d'anormale.
Mais comment t'expliques le changement?
Écoute, le changement, c'est qu'il s'est senti de plus en plus à l'aise. C'est que malheureusement...
Le naturel.
Exact.
Ah, il est revenu.
C'est-à-dire qu'inhiber un comportement naturel, c'est bien, mais à un moment donné, c'est plus fort que toi. Là. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a tendance à aimer parler, à qui on lui demande de fermer sa gueule pendant plusieurs jours. Et puis d'un moment ou un autre, ça devient trop intense. Il va avoir besoin de parler. Il va peut-être même parler encore plus après parce qu'il va avoir une
le
telle
stress.
Frustration. Exactement. Fait rendu là, c'est ce qui s'est passé. Le pauvre Afonso a commencé à attaquer tout chien qui venait chez nous, y compris le mien. À deux reprises, ça devenait définitivement ingérable. Puis là, on a été obligé effectivement de prendre cette décision. Mais une fois de plus, ce chien-là, on n'avait pas d'historique, on ne savait pas ce qui se passait. On pense que malheureusement, là où il a été retrouvé, ça peut être un chien issu de plusieurs réseaux dont on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Mais
on en entend parler encore aujourd'hui. Mmh, là, c'était 150 000 $ là, pour une usine à chiens là, dans le soleil. J'ai vu ça passer.
Exact.
Encore une autre histoire de
exact.
Ça.
Moi, ce que je veux juste rappeler, c'est que pour ne pas avoir besoin de se retrouver dans cette situation-là, j'entendais très souvent sur les réseaux dire, enfin, je lisais très souvent sur les réseaux dire « Ouais, mais là, il faudrait peut-être qu'on augmente les refuges. » Mais je ne suis pas convaincu qu'augmenter le nombre de refuges est la solution. Au contraire, plus on a de place pour accueillir les chiens, moins on aura d'état d'âme pour les abandonner parce qu'on va dire « C'est pas grave, on va pouvoir en abandonner encore davantage. »
Ouais,
la problématique, elle est à la base. Qui c'est qui décide de reproduire des chiens de manière irrespectueuse? Qui c'est qui décide d'adopter de manière irresponsable? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et puis c'est ces questions-là auxquelles il faut qu'on adresse vraiment des réponses claires, que ce soit du côté des éleveurs, que ce soit du côté des adoptants, que ce soit du côté du gouvernement aussi, qui puisse légiférer, qui puisse encadrer des lois. Puis encadrer et voter des lois, c'est une chose, mais les faire respecter, c'est encore une autre affaire aussi.
Question pour toi qui est peut-être hors sujet un peu, mais en même temps... Comment tu fais pour intervenir quand un chien est agressif? Est-ce que tu as des longs gants qui montent jusqu'à tes épaules pour t'empêcher d'être blessé?
Et en sous-question à ça, est-ce qu'un chien qui attaque d'autres chiens va se tourner éventuellement contre un humain?
Ça peut arriver, Camille, ça peut arriver. On appelle ça de la redirection. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on intervient justement quand deux chiens sont en train de s'attaquer, sont en train de se rentrer l'un dans l'autre, le chien qu'on va dire agresseur, c'est-à-dire celui qui va être plus offensif que l'autre, hein, celui qui va être attaqué en un sens.
Moi, je pensais que c'était d'emblée. La question à Camille, je ne l'ai pas posée parce que je me suis dit, si un chien est en train de se battre avec un autre, d'emblée, si j'interviens, je suis aussi un ennemi. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu dire, ah, il est de mon bord.
Ouais, ça peut arriver. En fait, tout va dépendre. J'ai eu de la chance avec Alphonse. À chaque fois que j'ai dû intervenir de manière claire, précise et puis sans aucune ambiguïté, ça s'est fait. Malheureusement, c'est un pitbull qui ne lâchait pas les trames. Donc, il a fallu vraiment que je sois insistant. Ce que je recommande aux gens de faire quand ils se retrouvent dans ces cas-là, c'est surtout pas de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de mettre les mains.
Okay.
Non, mettez pas ça. Puis, n'allez pas vous mettre des gants dans côte de maille ou quoi que ce soit là, de chevalier de la guerre 14. Allez pas faire ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est éventuellement de prendre une chaudière d'eau puis de la balancer sur les chiens pour qu'ils puissent leur faire redescendre un petit peu la traie. Mmh. Si vous avez des couvertures pas trop loin, c'est de les mettre dans une couverture. La perte de sens géographique,
de repères
spatiaux, voilà, effectivement, des repères spatiaux, merci Jeff, ça va nous permettre effectivement de pouvoir les faire descendre aussi. Ça peut être des conseils pour qu'on n'ait pas besoin nous-mêmes de se retrouver dans une situation où ils pourraient effectivement, comme tu dis Camille, se retourner contre nous, et pas nécessairement de manière malveillante. C'est parce que tel un ami qui est en train de se battre contre un autre ami, si vous essayez de le récupérer ou le retenir, il peut vous foutre une claque sans... Pas parce qu'il vous aime pas, c'est parce qu'il est tellement dans un état émotif, dans un état d'agressivité tel que toute personne qui peut entraver son comportement et le déroulement de son action peut devenir, effectivement, comme on l'a dit, un potentiel ennemi sans qu'il s'en rende compte, veut pas. Et Alphonse, effectivement, la problématique, c'est que non seulement c'était pas justifié, ces attaques, parce qu'ils attaquaient même des chiens qui n'avaient absolument émis aucun signe potentiel d'agressivité ou aucun signe potentiel de menace. Il attaquait systématiquement les chiens qui rentraient. Deuxièmement, il lâchait pas. Donc, on parlait d'intensité de la morsure. Troisièmement, il lâchait pas tant qu'on n'intervenait pas. Ça veut dire que la durée était trop intense. Et le retour au calme, pour ainsi dire, si on le retirait pas, là, il n'était pas capable de revenir au calme. Et quand il revenait au calme, ça lui prenait un bon 15, 20, 30 minutes même parfois, avant de revenir dans un état d'homéostasie correct. Donc tout ça, quand on fait une évaluation en matière d'agressivité au niveau des municipalités, vient nous faire coter le chien comme étant potentiellement dangereux. Puis aujourd'hui, trouver une famille qui aurait été capable de vivre avec ça, sachant qu'il avait une force telle qui m'a fait tomber à plusieurs reprises quand je suis intervenu auprès de lui.
Okay.
Il avait vraiment une force démultipliée quand il était en intensité. Bref, tout ça a fait qu'on a été obligé de réfléchir à comment gérer la sécurité de ce chien-là, mais gérer aussi la sécurité des citoyens, gérer la sécurité des gens, des personnes. Mmh.
C'est pas mieux s'il meurt un enfant qui se promène dans la rue.
Mais non, ça peut pas pardonner. Hein.
Parce que le résultat va être le même, il va finir euthanasié, sauf qu'il aura créé en plus un incident, parce qu'on ne sait pas comment il aurait réagi face aux humains à un moment donné. Bref, tout ça, je sais que c'est des cas de conscience, c'est difficile, on appelle ça des euthanasies comportementales, c'est-à-dire des euthanasies dont l'objectif n'est pas de dire « mon chien était en bonne santé », oui, parce que j'entends souvent « c'est triste ». D'euthanasier des chiens en bonne santé physique, oui. Est-ce que mentalement, dans la société, dans les règles, dans le cadre dans lequel on veut les faire rentrer à tout prix parfois, est-ce qu'ils sont toujours vraiment si heureux que ça? Ou est-ce que le mal-être parfois se traduit justement par des comportements plus ou moins inhibés et parfois exhibés, comme celui que malheureusement Alphonse a eu?
Ouais, effectivement, des fois, il y a plusieurs côtés à une médaille. On ne sait jamais vraiment si l'euthanasie a été faite... pour de mauvaises raisons.
Exact, exact.
Hey, je t'ai envoyé un article
qui
t'a fait réagir. Puis moi aussi, ça va un peu dans la même lignée que tantôt, j'écoutais un reportage plutôt à LCN qui disait que les enfants exposés aux écrans
j'ai vu ça aussi.
viraient colérique. Puis je me disais,
les jeux vidéo, ça rend violent.
J'en doute pas là, que c'est pas très bon de plugger un enfant sur l'écran, mais c'est-tu peut-être le fait que le parent les dompe sur un écran qui crée peut-être du ressentiment, qui lui fait péter des coches? Ça peut-tu faire partie de l'équation? Je lance la question dans les airs, peut-être pas non plus. Là.
Bonne question.
Puis, tu sais, quand je regardais la liste des 25 races les plus populaires selon l'American Kennel Club, c'est le Forbes Advisor qui ont bâti un classement, en fait, pour déterminer quelles races sont les chiens les plus sages et les moins sages parmi les plus populaires.
Fait que Forbes, comme dans Forbes, les plus riches au monde, là?
Exact. Ouais,
c'est
bon. Aussi,
c'est
exact.
C'est drôle.
Oui, ouais, effectivement. Fait que ça a donné un classement assez particulier, honnêtement, où, sans surprise, en première position, Chris, il y a le Labrador.
Ben oui, le Labrador. Ben, c'est sûr que c'est un chien de famille, hein, puis c'est un chien qu'on retrouve dans de nombreux films très connus, là, Marley et moi, c'est un Labrador. Là.
Mm-hmm. C'est vrai. MVP.
Ben oui, c'est tout des...
Pas MVP. MVP, c'est un singe. C'est mon vaillant primate. Ouais, non, je me suis trompé, c'est Toby que je cherchais.
Piqué sous ma table.
Vraiment.
Oui, effectivement, on s'est retrouvé avec ce classement qui était intéressant. C'est pas étonnant que ce soit le Labrador qui soit le premier, forcément. Ça veut pas dire que c'est le chien. Puis vous allez voir, ça va être intéressant un peu la réflexion à laquelle je vais vous amener par rapport à ça. Parce que est-ce que vous avez vu, c'est qui le deuxième?
Le deuxième, moi, je l'ai vu, puis ça m'a complètement renversé.
C'est un flabbergast, hein, comme on dit.
Mon expérience Grand Theft Auto 5 m'a pas permis de penser ça.
C'est très bizarre, parce que la fin de semaine dernière, j'étais au parc à chiens encore avec... non, c'était même pas cette fin de semaine, c'était cette fin de semaine, j'étais aux portes ouvertes de la SPA de Lévis, puis là, je me suis retrouvé à faire une conférence, et puis une madame qui était intervenue, parce que j'avais des gens qui viennent très souvent au parc à chiens, qui étaient avec cette fameuse race, bon, on va la dire, hein, comme ça va être plus simple. Le deuxième chien le plus sage, selon ce classement-là, est le Rottweiler, ce qui est quand même assez hallucinant. Rottweiler, qui est considéré comme l'un des chiens les plus dangereux aussi au monde, fait que, comme le Doberman, comme le Pitbull, on en parlait tantôt, comme le berger allemand, ou encore le Husky. Et effectivement, je parlais avec une dame qui me disait « Non, mais moi, c'est sûr que je n'adopterai jamais un Rottweiler. Pourtant, c'est ma race favorite. Je les adore. Mais moi, vis-à-vis de mes enfants, mes petits-enfants, je ne pourrais jamais adopter un Rottweiler. Quand ça mord, ça lâche plus. Là, ça pogne, tu le sais. C'est méchant, un Rottweiler. »
Juste dans la culture pop, on s'imagine un Rottweiler surveiller une cour à scrap. On ne sait pas pourquoi il faut que la cour à scrap soit surveillée, mais il y a un Rottweiler qui est
forcément,
là. Puis qui est tout le temps au bout de sa chaîne.
Exact, avec le collier en épine et en tout pin, derrière. Ouais. Ben ouais, c'est certain. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est l'inconscient collectif qu'on a réussi à créer. Puis malheureusement, comme on le disait, ce classement-là, il était intéressant parce qu'il nous rappelle quand même que dedans, on va se retrouver face à des chiens qu'on a tendance à avoir tranquillement pas vite su sélectionner en fonction des besoins des gens par rapport à... Vous savez qu'on est capable de pouvoir sélectionner hein, des chiens puis de les faire évoluer même au niveau génétique. On va parler de l'épigénétique, qu'on va être amené à faire modifier même certains gènes selon plusieurs générations en faisant de la sélection, comme l'a fait d'ailleurs Belaïev, qui l'a fait avec les renards argentés. Je pense que j'en avais déjà parlé ici. Belaïev, qui est un scientifique russe, qui avait décidé de prendre un couple de renards argentés dans la nature, des renards complètement sauvages. Au bout de 5 générations, il était quasiment capable d'avoir des renards qui étaient presque des renards de maison. Fait que, au bout de 5 générations, ça n'a pas pris beaucoup plus. Alors imaginez, quand vous parlez de 10, 20, 30, 40 générations, ça peut arriver au-delà. Donc c'est sûr qu'il y a certaines races de chiens qu'on a justement, comme les Rottweilers potentiellement aussi, qui justement, par leur dangerosité, ont été sélectionnés pour leur docilité, pour leur capacité à... Et ça ne m'étonne pas que le Husky arrive dans les derniers, dans les mauvais élèves.
Ouais, le Husky de Sibérie est apparemment le pire chien que vous ne pouvez pas avoir.
Ouais, avec, je salue Morel, le Cavalier King Charles.
Ouais.
C'est vrai, oui, Dom a un Cavalier King Charles.
Le Cavalier King Charles, ou encore le Beagle, je vois aussi le Bichon Havanais, puis le Bulldog français. Puis c'était marrant ce que tu disais tantôt, Jeff, hors onde. C'est que c'est l'un quand même des chiens les plus
plébiscités
par la population.
Trendy,
très trendy. Puis il me semble, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un des chiens les plus possédés, les plus achetés en 2024 ou 2023. Là.
Absolument. Et ça, c'est pas étonnant parce que, veux pas, on se retrouve face à des chiens, quand on parle de Beagle, quand on parle de Husky, on parle de chiens de travail, mais on parle de chiens de travail avec des lignées qui sont bien, bien anciennes. Pour moi, quand je parle de Husky de Sibérie, par exemple, je parle vraiment de chiens primitifs, c'est-à-dire des chiens qui sont les plus proches possibles encore de leurs origines fondamentales. On est pour dire que la tous les chiens sont issus du loup. Même si vous voyez un chihuahua, regardez bien dans le fond de son œil, vous devriez voir un loup dans le fond de l'œil d'un chihuahua.
Méfie-toi tout le temps, GF.
Exact.
La saucisse est à watcher.
Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Regarde dans le fond de ta saucisse, en tout cas dans le fond des yeux de ta saucisse, tu devrais voir un loup naissant quelque part à un moment donné.
Genre, regardez, là, je vais fixer un œil en particulier.
Tu devrais voir l'œil du loup qui sort. Et effectivement, ces chiens-là, forcément, à partir du moment où ils sont encore très proches de leurs instincts primitifs, les faire des assis, couchés, restes, des tours de cirque, comme je les appelle à certains moments, face à un Golden Doodle, par exemple, qui a quasiment été fait pour être un chien de famille, c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne parlerai pas de chiens sages, je parlerai de chiens avec des besoins particuliers. Et c'est pour ça, une fois de plus, et c'est intéressant ce classement-là, on va pouvoir en débouler quelques-uns, par exemple, parce que le troisième, c'est quoi le troisième?
C'est quoi un bichon avané? Un
bichon avané.
C'est quoi ça?
C'est genre, c'est ce qui peut servir de potentiellement proie à un husky, justement, c'est marrant. Mais c'est des petits chiens blancs, là, ou des petits chiens de brun, ils ont de couleur brun et blanc.
C'est un bichon, là. Mais c'est quoi la différence entre le maltais et le avané?
Ben voilà, c'est ça. Comme c'est toutes les races de bichons.
Un qui vient de Cuba, puis l'autre vient de Malte.
Ben c'est ça. Je trouve ça trop poilu pour venir de Cuba. C'est trop chaud pour rien.
Tu l'as, le bichon maltais, là. Tu vois que c'est un chien beaucoup plus précieux, beaucoup plus... plutôt que le bichon havanais qui, effectivement, doit fumer le cigare. Mais tout ça pour dire
que... C'est un chien qui pue la clope.
Ouais, c'est ça.
Il sent le barreau de chaise.
Oui, c'est comme... Regardez, quand on regarde encore dans les plus sages, je vois le Canet Corso. Le Canet Corso, c'est un chien, c'est un molosse. C'est un molossoïde aussi pareil, hein, qui est issu justement de toute la famille des bulldogs, bulldogs français, bulldogs anglais, tout ce qui est lié au pitbull aussi. Tout ça vient de cette même...
Aux babines, voyons, affaissées.
Oui, les babines affaissées, puis même certains, le nez un peu écrasé. Je vois que le cinquième, c'est le Golden Retriever. Le sixième, le berger allemand. Ben oui, le berger allemand, c'est un chien de travail par excellence. Mais une fois de plus, ce chien-là a été à la place d'honneur.
Jeff qui doute.
Ah, mais honnêtement, c'est ça, les plus sages, les plus vraiment sages. Berger allemand. Juste en cinquième position, le Golden Retriever.
Oui, Golden Retriever.
Golden Retriever est sage. Il me semble, c'est pas sage nécessairement. Il me semble que c'est énergique. Tous les tempéraments, ça dépend des chiens, en fait, puis de leur maître.
Merci, Jeff. Je pense que c'est un peu la conclusion à avoir.
C'est un peu ça, hein.
C'est bien d'avoir ce classement-là et puis de se dire, oh, bon, ben génial. Alors, vu que le Rottweiler est sage, on va faire. Adopter des Rottweilers, c'est super. Soyons très vigilants avec ce genre de classement-là parce que il ne faudrait pas qu'à un moment donné, ça vienne à lancer des modes pour avoir des chiens bien particuliers en disant « Ouais, mais Forbes a dit que c'était bien correct. » Tu l'as dit, Jeff, c'est tout, chaque chien est indépendant. Chaque chien a besoin de passer par plusieurs cycles et tous les chiens vont passer par le même cycle qui est le fait d'être bébé, le fait de passer à l'adolescence et puis eux vont en demander tous de l'énergie quand ils vont passer dans cette phase-là. Mm-hmm. Puis tout va dépendre aussi de la manière avec laquelle on va les éduquer derrière. C'est bien beau de dire que le labrador est sage, mais moi, je me retrouve avec des labradors qui sont aussi, et je vais le dire, dans des protocoles d'euthanasie pareils, okay, parce que ou ils ont été fuckés, ou alors ils ont rencontré, ou ils ont vécu malheureusement des situations qui n'étaient pas super waouh, ou alors génétiquement parlant ou héréditairement parlant, il y avait déjà des problèmes à la base. Parce que oui, quand tu te retrouves dans un élevage qui n'en a rien à faire de la lignée, puis qui va te sortir des chiens qui vont partir de leur famille au bout de 5 semaines, ben oui, tu vas te retrouver avec un chien fucké, même si c'est un beau chien qui est mis dans le top 1 des chiens les plus sages de Forbes. Donc, toujours important, prenez un chien en fonction de ce que vous voulez faire, pas en fonction de « il est-tu cute, il est-tu mignon » ou « il est-tu top 1 ou top 5 d'un classement ». Renseignez-vous sur l'élevage, passez par des élevages éthiques si vous voulez vraiment passer par un élevage, ou alors allez voir les refuges et les SPA de ce monde. Puis surtout, armez-vous, outillez-vous pour faire de l'éducation correcte avec votre chien, parce que si vous n'y arrivez pas, même si vous trouvez avec un beau bébé qui fait partie du top 5, genre le Shih Tzu, un Shih Tzu, c'est cute quand c'est bébé. Oh, Maudy, c'est cute. Ça peut être un enfer s'il est mal éduqué et ça peut devenir effectivement un chien difficile. Mais j'ai trouvé ça effectivement intéressant parce qu'une fois de plus, c'est très typique à l'humain. On a besoin de faire des classifications. On a besoin de créer des top pour se donner des repères. Mais des repères qui vont servir à quoi finalement?
Aussi un peu se déresponsabiliser. Là, je serais curieux aussi de savoir sur leur échantillonnage combien ont de chiens De, par rapport à leur position. J'ai l'impression qu'il peut peut-être y avoir une concordance entre les gens qui ont été appelés puis combien il y en a dans le lot. Il y a peut-être ça aussi.
Exactement, parce que si tu regardes comment ça a été fait en plus, puis on vous invitera éventuellement à aller voir l'article au complet qui était sur TVA Nouvelle.
C'est là que je l'ai vu.
Vous pouvez aller le voir. Effectivement, vous tapez classement des chiens les plus sages, vous allez forcément le trouver dessus. Regardez également comment a été fait ce sondage-là. C'est beaucoup à l'appréciation aussi des humains qui ont ces chiens-là. Puis ça reste très subjectif, tu sais, une fois de plus. Là. Est-ce qu'on a utilisé les mêmes barèmes pour côté le fait qu'ils soient sage-passage? Est-ce qu'on a utilisé...
On a posé des questions, enfin, sûrement en oui ou non, là, dans un questionnaire. On a dit meilleur tempérament, ceux qui répondent le mieux aux ordres. Fréquence d'évasion, tendance à sauter sur les gens, fréquence d'aboiement, tendance à ingérer des corps étrangers.
Manger n'importe quoi.
Ou bien même de demander pour de la nourriture. Là, tu sais, des...
Exact.
De ça... manger de la saucisse, justement.
Merci pour les sons, en effet.
Ouais, je sais, désolée. J'étais à un party en fin de semaine avec un chien, puis justement, elle était hyper tranquille. Elle avait 12 ans aussi. Là, c'était quand même une personne âgée. Là. Mais dès qu'on a sorti les hot dogs, on était des amis. Là.
Ah, ben oui. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que le saut, est-ce que votre chien saute ou pas? Ben, ça dépend. Si la personne, elle considère que le saut n'est pas gênant, elle va peut-être même considérer qu'elle ne saute pas. Est-ce que le jappement, ouais, si ça ne l'embête pas qu'il jappe toute la journée longue parce qu'il vit dans le fin fond d'une ferme, peut-être que lui, ça ne le gêne pas. Alors que cette même personne appelée dans un condo va te dire de manière extrêmement importante, dès qu'il jappe deux fois par jour, qu'il fait passer sa vie à japper. Donc, c'est très subjectif, l'appréciation de tout ça. Et veut pas, ça nous ramène quand même sur... Pensez à juste vous renseigner sur ce que vous allez adopter, puis pensez à vous renseigner sur votre processus d'adoption à large.
Hey, ben écoute, j'adore quand on prend des questions d'auditeurs.
Oui,
j'invite les gens à nous écrire 88-670-9098. Je commence avec la première, justement parce que tu parlais de tendance à sauter sur les gens. Les gens, comment est-ce qu'on fait pour empêcher ce comportement-là? Tu te promènes sur le trottoir, là, puis le chien vient pour tout le temps mettre les deux pattes sur le passant. Qu'est-ce qu'on fait?
Exact. Alors, première chose, très important, effectivement, quand ça se passe dans ce cas-là, alors il y a plusieurs cas, hein, quand le chien saute dessus, est-ce que c'est quand il y a de la visite qui vient à la maison ou est-ce que quand on se croise dans la rue, il a tendance à sauter dans les deux cas? Dans les deux cas, ce qu'il faut être très important, retenir, c'est que le saut, si on considère que c'est un comportement nuisible, il va falloir l'ignorer d'une manière ou d'une autre. Mais la problématique, c'est que ignorer un comportement, on appellera ça de la punition négative, c'est-à-dire j'enlève en un sens une attention là où le chien en veut, parce que lui, ce qu'il veut, c'est une attention. S'il saute sur ses postérieurs pour pouvoir aller voir le passant qu'on va croiser, c'est qu'il est persuadé qu'en ayant ce comportement-là, il va finir par pouvoir avoir une interaction avec le passant. C'est sûr que si on continue à lui permettre d'interagir avec un passant et que le passant vous dit « Non, mais c'est pas grave, laissez-le sauter, moi j'aime ça les animaux. » Mais c'est parce que tu m'aides pas, mon ami. C'est parce que toi, tu n'aimes pas.
Mais là,
c'est ça, parce que la madame qui est derrière toi, elle va peut-être pas aimer que mon chien lui saute dessus. Fait que non, je veux vraiment que tu ne fais rien si mon chien te saute dessus. Par contre, si le chien veut avoir une interaction, il faut qu'il se mette en situation de calme. Mais pour être mis en situation de calme, ça veut dire qu'il faut qu'il apprenne un autre comportement, genre s'asseoir. Est-ce que s'asseoir va lui permettre d'accéder, en un sens, à l'interaction qu'il veut avec son humain qu'il va croiser, enfin avec l'humain qu'il va croiser? C'est ça qu'il va falloir qu'on définisse. Ignorer un comportement qu'on veut pas, c'est une chose, mais si on lui apprend pas à avoir un comportement alternatif pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire avoir cette interaction avec l'humain qu'il va croiser ou avec l'humain qui va venir chez vous dans votre maison, finalement, on lui permet pas de savoir quel est le comportement approprié pour le faire. On va juste lui dire « Non, descends, Et une fois de plus, là, on lui donne de l'attention, puis en plus, on lui apprend pas à avoir un comportement alternatif. Donc, comme je dis toujours, si vous voulez... Pensez à dire non à un chien quand vous dites non à un chien parce que vous ne voulez pas qu'il fasse un comportement. Pensez juste à ce que vous voulez qu'il fasse à la place et apprenez-lui à le faire.
J'ai souvent entendu, puis je sais que là, je vais être terrible de comparer ça encore avec des enfants, là, mais il y a toujours dans ma tête, on dirait l'idée là, qu'il faut que tu apprennes de façon éponge à ton chiot le plus rapidement possible, justement, tous ces ordres-là, tu sais, d'être capable de rester, de ne pas être capable de japper, parce que si il apprend ça à un jeune âge, et ça a plus de chances de perdurer dans le temps. Vrai ou faux?
C'est vrai, Camille, parce qu'on parle de la période de prégnation qui va entre 0 et 4 mois. Les 16 premières semaines de la vie d'un chien est primordiale dans son apprentissage. C'est l'équivalent des 0-6 ans pour nous. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne peut pas apprendre, bien au contraire, mais ça veut dire que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, parce que cette période de prégnation gagnation ne sera plus la même. Ça veut dire qu'il aura vécu une telle quantité d'expériences que pour lui, il a recommencé à se créer une réalité. C'est-à-dire, ah, oh, mais quand je saute sur le monde, je me rends compte que tout le monde me dit, hey, descends, vas-y, chut, à terre. Oui, tout le monde a l'air d'être vraiment super autour de moi. Là, à partir du moment où je saute sur le monde, quand je jappe, je vois que tout le monde me dit, ta gueule, super, ferme-la, je suis plus capable, tais-toi. Donc j'ai l'impression que tout le monde me parle, tout le monde me regarde, je capote. Donc j'ai compris que ça fonctionnait. Donc c'est sûr que plutôt on va leur apprendre que ça ne fonctionne pas, mais qu'on leur apprend à avoir un comportement alternatif, plus rapidement ça va s'ancrer dans le temps. Et surtout quand va arriver la fameuse période d'adolescence qui est critique, ça va leur permettre de pouvoir se remettre également sur ces bases fondamentales qu'il leur a appris à partir du moment où nous-mêmes, nous restons constants dans notre façon de faire. Ça, c'est un autre enjeu qu'on a aussi, c'est que malheureusement, on n'est pas toujours constant non plus. On va l'être quand on a conscience des choses, puis à un moment donné, quand on va avoir l'impression que le chien a appris, on va lâcher certaines habitudes, certains bons réflexes, et on va voir que les anciens bons réflexes du chien vont revenir aussi. Parce que ce qu'on lui apprend, ça tient moins dans le temps que ce que lui a appris lui-même par expérience, finalement.
En terminant, je veux absolument qu'on plug un documentaire que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps, puis c'est rare que j'écoute la télé. Puis quand je commence à écouter quelque chose à la télé, souvent, je fais « c'est plate », puis je passe à autre chose, puis je remets mes écouteurs, puis je vis ma vie. Là, je l'ai toffé au grand complet. Moi puis ma blonde, on a dévoré le documentaire qui s'appelle, en français, « Caractère de chien ».
Ah,
c'est un très bon documentaire. Oui, c'est sur Netflix, puis je vais te lire le synopsis parce que ça le décrit bien. Embarqué pour un joyeux périple dans l'univers des chiens avec ce documentaire qui dévoile des aspects scientifiques et émotionnels méconnus de nos adorables compagnons. Puis le documentaire exprime très bien le fait qu'on n'a pas beaucoup de recherches de faits sur le comportement canin. Des recherches scientifiques, il y en a eu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça.
Non, effectivement, on apprend beaucoup par expérience. Et puis malheureusement, les recherches scientifiques qui sont faites sont toujours faites de manière contextuelle, c'est-à-dire où c'est fait en laboratoire, où c'est fait dans un environnement bien particulier. Malheureusement, pour pouvoir le faire de manière plus domestique, il faudrait quasiment qu'on fasse une étude scientifique chez deux ou trois personnes lambda qui sont prêts éventuellement à répondre à des critères qui vont être analysés quotidiennement en fonction de stéréotypes de famille. Est-ce que quand il y a deux enfants, est-ce que quand il y a juste une personne, un humain, est-ce que quand il y a deux humains avec tel ou tel type de chien, on soit capable de faire une analyse et puis après ressortir des constantes. Malheureusement, on va le faire beaucoup dans des laboratoires, on va le faire beaucoup dans un milieu naturel aussi.
Et c'est un milieu qui évolue pas, Christophe, parce que tout le monde a des chiens, là.
Absolument.
Il me semble que la société a évolué, c'est le meilleur ami de l'homme.
Absolument, absolument. Puis que ce soit pour les chiens, pour les chats et autres, c'est sûr que l'intérêt, ce serait effectivement qu'on soit capable de pouvoir faire une étude scientifique, mais dans lequel on aurait des paramètres, des critères avec des gens qui seraient prêts pendant une période significative, des périodes critiques du chien également, pendant la période où il est puppy, pendant la période où il est adolescent, pendant la période où il arrive à sa période d'adulte, qu'on soit capable d'évaluer certaines évolutions comportementales, qu'elles soient de nature canine ou de nature humaine, pour qu'on soit capable de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une science du comportement plus adaptée au côté domestique du chien ? Parce que oui, on sait comment il fonctionne dans la nature, oui, on sait comment il fonctionne avec ses congénères, mais malheureusement, la majorité des chiens vivent seuls dans un environnement d'humain. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on soit capable de pouvoir évaluer aujourd'hui. Donc, il y aurait des bonnes études à lancer, puis peut-être des cobayes à ouvrir. Tiens, on va peut-être y réfléchir.
Ah, absolument.
Mais oui.
Puis, pour vrai, le documentaire est très bon. Ça démontre, en fait, ça se pose la question, est-ce que le chien peut aimer? Au-delà d'avoir de l'affection, là, mais vraiment là, aimer. Ça revient à notre conversation quasiment philosophique qu'on a eue en début d'émission, Camille, là, mais aimer. Est-ce que le chien peut? Puis plein d'affaires, je ne veux pas dévoiler des punchs, mais juste un petit comme ça que je vous donne en teaser. Là. Moi, je suis fasciné par les comportements, je pense qu'on appelle de la mimétique. Quand un chien vient mimer un comportement humain, le copier, quand les chiens, là, puis moi, ça a tellement été un exemple frappant parce que la société, ça nous fait ça non-stop. Là. quand un chien vire les yeux un peu et te montre son blanc de yeux, là, c'est un comportement copié sur l'humain. Parce que ça y avance à rien de faire ça à part te séduire.
C'est
malade.
Cute.
C'est malade. C'est une des affaires incroyables du documentaire.
Tu l'as dit, Jeff, un chien, ça apprend par association et ça apprend par imitation. Donc, effectivement, ça va imiter que ce soit des chats, des chiens, des humains. Et oui, ça s'imprègne de son environnement. Donc, oui, effectivement, c'est pas étonnant. Et toi, juste comme ça, là, par curiosité, à la fin de ce reportage, est-ce que tu penses qu'un chien peut aimer?
Je pense que oui, parce que honnêtement, la façon en plus que le documentaire est bâti, il m'emmène peut-être à penser ça.
C'est romancé, sûrement.
Mais pas c'est romancé, c'est juste que ça prend le point de vue que les chiens, là, pour survivre, ont eu la meilleure stratégie d'adaptation de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire en s'adaptant puis en aimant. Tu comprends-tu?
Oh.
Tandis que bien des espèces, à travers l'histoire, se sont juste combattues. Tu sais.
Ouais.
Tandis que le chien s'adapte toujours. Ça fait,
c'est bon.
Je sais pas. C'est une discussion. J'ai eu la même avec ma blonde sur le divan. Là, et aimer, là, vraiment, le mot...
C'est un gros mot. C'est lourd de sens.
Toi, je doute de la réponse, là.
Non, même pas, parce que je trouve que ton analyse, elle est vraiment bonne, puis je trouve ça beau que la manière avec laquelle tu viens amener ce point-là. On n'a pas de vraie réponse. C'est sûr que le chien crée un attachement affectif avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Un engagement inconditionnel, oui. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Moi, je suis persuadé que oui, mais...
C'est l'engagement vient avec l'amour.
Oui, exact.
Y a-t-il plus engagement? Moi, il n'y a personne, puis ça me fait de la peine un peu de dire ça, parce que ça fait 16 ans que j'étais avec ma blonde, mais il n'y a personne plus engagé que la saucisse avec moi, là. Personne. C'est d'une tristesse, phrase-là. Là.
Oh, mon loup!
Je scrappe ces belles paroles parce que ma question du jour sur le documentaire que je n'ai pas vu, c'est est-ce qu'un chien peut être schizophrène? Et si oui, est-ce qu'il entend des aboiements ou des humains parler dans sa tête?
Wow!
C'est intéressant.
Pour de vrai, là, je me le demande. Ça peut-tu développer des maladies mentales?
Oui, la maladie mentale existe chez le chien et elle se traite d'ailleurs. Maintenant, comment ils perçoivent ces problèmes de troubles comportementaux? Est-ce qu'ils entendent des choses dans leur tête? Est-ce que c'est effectivement du jappement?
Ouais,
est-ce que
c'est des voix?
Ça doit probablement être des sons ou quoi. Mais je m'engage à aller chercher de l'information et puis à essayer de donner des éléments de réponse là-dedans. C'est sûr.
Wow, OK.
Et y compris sur l'amour.
Ça promet, mesdames, messieurs, dans deux semaines. Chris, un gros merci d'être passé nous voir.
Merci
d'être de retour pour cette saison-ci dans
Spacecast. C'est moi qui vous remercie de me réinviter.
Je te souhaite un bon séjour à Québec.
Merci beaucoup.
T'es en ville jusqu'à quand?
Je retourne en France dimanche.
Ce dimanche?
OK.
Okay. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce qui est au menu d'ici dimanche?
On va aller vendredi à Valcartier.
Let's go!
Quelle bonne idée!
Let's go! Vraiment. Ça, c'est très, très cool.
On va aller voir le village d'antan aussi, là, à Drummondville. Là.
Ouais, c'est bon, ça. Valcartier retient ça, la marmite. C'est cool, la marmite. All right.